Ce que je voudrais montrer ce soir, c'est que c'est dans la manière dont est gérée la relation avec le soin impérieux et les méthodes employées pour le maîtriser que se trouve la différence essentielle entre spiritualité traditionnelle et spiritualité naturelle, telle qu'elle a été pensée, développée, théorisée et pratiquée par Austin et Lay. Le premier point que l'on pourrait développer, mais que je ne développerai pas, c'est que, au fond, sa propre vie est une illustration de la manière dont il a pensé la spiritualité naturelle. Puisque, contrairement à ce que font d'habitude les grands mystiques, il a commencé par mener une vie extrêmement ascétique, tout à fait traditionnelle. Il a mené dès l'enfance tout un cycle d'ascèse sous forme de jeûne, de prière, de veillée. Il a vécu une vie exclusivement spirituelle pendant au moins ces 12 années d'ascèse qu'il a entreprises sous la houlette de son père, et que ce n'est qu'après, après l'âge de 20 ans, qu'il a décidé d'entrer dans la société et de mettre à l'épreuve tout ce qu'il avait appris. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre à l'épreuve tout ce qu'il avait appris? Ça veut dire précisément peut-être sortir de la montagne d'une certaine façon idéale, ou dans le jardin, comme disait son père, sortir de ce jardin d'Éden dans lequel il avait grandi, et dans lequel, finalement, cette façon que la société a d'éprouver le soi, il ne l'avait pas vécu. Et ce qu'il a vécu donc dans la vie sociale, pour lui, a été tout à fait déterminant et a constitué la spécificité de sa spiritualité. On pourrait même dire que cette notion de spiritualité naturelle est au cœur de son enseignement. Il dit lui-même, dans son enseignement oral, « Cette école est comme une médecine nouvelle que j'ai découverte à la suite de nombreuses années d'ascèse continue, d'expérience et de recherche. Ma profession et les situations sensibles où je me suis trouvée m'ont confrontée à toutes sortes de possibilités, mais je n'ai pas failli. Et c'est pour cela qu'une seule année dans cette situation avait autant de valeur que 12 années d'ascèse. C'est en vertu de ce principe que je dis « Il faut vivre au sein de la société, se nourrir et se fortifier ». Mais cultiver en même temps son âme et la rendre si forte qu'aucun vent ne puisse la faire trembler. » Ce qu'il dit, c'est qu'en règle générale, si on vit en retrait et dans un état d'ascèse, d'extase et de méditation, eh bien l'énorme danger, c'est que si on passe ensuite dans la société et qu'on est sollicité par les tentations de la société, il y a fort à parier que tout le monde ne puisse pas ne pas faillir et donc rester ferme dans ses principes. C'est pourquoi il raconte lui-même une histoire qui illustre en réalité ce point. C'est l'histoire fort célèbre des deux frères. On raconte qu'il y avait deux frères, tous deux également vertueux. L'un alla vivre dans une grotte, retiré du monde pendant des années, et l'autre décida de vivre en ville, au contact de la société. Un jour qu'un berger passait près de la grotte, le frère Anachorète posa une braise ardente dans du coton et remit l'ensemble au berger pour qu'il le porte à son frère citadin. Ce colis signifiait « Comme j'ai renoncé à tout pendant des années, je suis arrivé à un niveau tel que je peux mettre le feu dans le coton sans le consumer. » Le berger porta au frère le colis de coton et de braise. Celui-ci l'examina, le posa sur une étagère et dit au berger, il n'a pas l'air très impressionné quand même, « Dis à mon frère de venir me rendre visite un de ces jours. » Un jour donc, le frère Anachorète se rendit en ville et constata que le coton et la braise posés sur l'étagère étaient toujours intacts. Son frère lui dit « Je dois m'absenter un moment. En mon absence, occupe-toi des clients le temps que je rentre. » Et il quitta la boutique. À ce moment-là arrivèrent quelques femmes qui se mirent à discuter, à plaisanter avec l'Anachorète. Comme cela faisait des années qu'il n'avait fréquenté personne, entre parenthèses on peut dire qu'il n'avait fréquenté personne et en particulier pas de femmes, son cœur vacilla et à cet instant même, le coton sur l'étagère prit feu et se consuma. Lorsque le frère revint, il fit mine de ne pas remarquer le coton réduit en cendres. Il prit une passoire, la remplit d'eau et la posa dans un coin. Puis il s'occupa de ses clientes, il parlait différemment à chacune, plaisantait avec certaines, et son ascète de frère voyait qu'aucune de ses actions ne troublait l'eau qui restait immobile dans la passoire. Après le départ des dernières clientes, le frère citadin se tourna vers l'Anachorète et dit « Vois-tu, durant toutes ces années, tu as mené une vie d'ascèse et de prière, mais il a suffi que tu regardes deux femmes pour que ton cœur vacille et que ton coton prenne feu. Tandis que moi, je vois des centaines de femmes chaque jour et l'eau reste parfaitement immobile dans ma passoire. Le mieux est donc de vivre au sein de la société, ajoute Ostadelei. Être actif, mais ne pas se laisser influencer ni se laisser envahir par des préoccupations matérielles. En fait, ce récit illustre de manière assez saisissante la tension qui est au cœur de toute entreprise spirituelle et dont on a déjà commencé à parler. C'est que, en effet, c'est assez classique de considérer de manière plus ou moins explicite que pour se consacrer complètement à un idéal spirituel, eh bien, il est préférable de renoncer au monde, aux désirs, voire aux besoins les plus élémentaires du corps, à la manière, justement, des yogis ou des grands mystiques du passé. Le point commun de toutes ces approches spirituelles qu'on peut qualifier de traditionnelles, c'est en fait le refus d'entrer en interaction avec toute forme de tentation. Pourquoi ? Parce que justement, comme ça, on ne donne pas prise aux soins impérieux. Se retirer du monde ou pratiquer des mortifications corporelles, ascétiques, c'est d'une certaine façon refuser les tentations exogènes, celles qui viennent des autres et de la société, mais aussi les tentations endogènes, celles qui viennent des pulsions du corps, parce que quand on le mortifie, on l'affaiblit. C'est une manière en fait de s'y arracher de manière radicale, ou du moins de croire qu'on est en train de s'y arracher de manière radicale. En fait, les deux frères, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils ont tous les deux un même désir de perfectionnement de l'âme. Ils ont tous les deux le même idéal de perfection. Ils sont portés par un même idéal éthique aussi. Mais l'un choisit d'atteindre cet idéal en s'éloignant des sources de la tentation, et l'autre décide au contraire de rester et de les contrôler alors qu'il est en interaction avec ces tentations, justement. Et en fait, ce que fait le deuxième frère, c'est qu'il assume la tentation exogène, celle qui vient des femmes qui sont dans la boutique, et la tentation endogène, qui est justement le mouvement de son propre soin impérieux. Et à ce titre, on peut analyser les métaphores du miracle, en fait, que fait chacun des frères, puisqu'on a le feu qui ne brûle pas le coton et qui montre, en fait, que le frère ascète a atteint un degré spirituel. C'est comme un symbole d'une forme de pouvoir sur ses pulsions, parce que c'est le feu qui ne brûle pas. Et en même temps, le feu représente cet état un peu extatique dans lequel on peut être quand on est dans un état dans la spiritualité traditionnelle. Mais en même temps, on voit que ce feu qui ne brûle pas a été obtenu par une stratégie d'évitement et que ce feu même, qui est le miracle accompli par le frère, peut détruire tout son propre acquis spirituel, que ça brûle le coton. Il a certainement évité de se souiller par cette méthode, mais il n'est pas sûr qu'il se soit purifié réellement de ses pulsions. Puisque tant qu'il n'est pas confronté à la situation, il ne peut pas le savoir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne fait rien, le frère. Il a juste le cœur qui vacille. Il ne fait rien de mal. A priori, il ne touche pas les femmes, enfin, il reste tout à fait correct. Mais c'est dans son cœur que ça se passe. Et on voit bien que le fait que ça se passe dans son cœur montre que la résolution, elle doit se faire à l'intérieur. Ce n'est pas du tout les gestes extérieurs qui nous disent que quelqu'un est arrivé à maîtriser ses pulsions ou pas. Parce que les deux frères agissent exactement de la même façon. Ils sont tous les deux très calmes dans la boutique, et les femmes viennent, elles achètent, elles s'en vont. Mais il y en a un qui, à l'intérieur, va ressentir quelque chose qui n'est pas éthique, alors que l'autre va être en contrôle permanent. Alors que dans la spiritualité donc traditionnelle, cette stratégie d'évitement est centrale, dans la spiritualité naturelle, elle est tout à fait à proscrire. Parce que l'évitement, ce n'est pas ce qui permet d'avancer. Et donc, Ostadelei pouvait particulièrement bien en parler, comme je le disais, à cause de sa propre biographie, et parce qu'il avait vécu dans son enfance, justement, l'ivresse et d'une certaine façon le feu intérieur que représente une vie ascétique dans laquelle on a cet état d'exaltation. Mais il en connaissait aussi les dangers parce qu'il avait vu autour de lui comment les derviches de son père, par exemple, n'avaient pas du tout réussi à entrer dans un vrai contrôle de leurs pulsions. Il connaissait donc les limites et les dangers de ce genre de pratique. Et ce qu'il montre à travers l'exemple du frère Anachorète, c'est que les limites et les dangers, ce n'est pas seulement qu'on ne maîtrise pas profondément ses pulsions, mais c'est aussi qu'on tombe dans une forme d'orgueil. Comme on l'a vu, il veut un peu frimer, il s'y croit. Il dit « Ah, mon feu est là, il ne brûle pas le coton, etc. » Donc il y a toujours le danger de l'orgueil, de l'orgueil de celui qui est arrivé, qui guette ceux qui croient avoir contrôlé les pulsions de leur soi impérieux. Et qui guette en fait surtout ceux qui pensent qu'ils ont réussi à réduire le corps au profit de l'âme. Alors qu'on voit que dans le miracle du frère citadin, que c'est de l'eau qui ne tombe pas de la passoire. Donc c'est une image qui est très différente du feu, c'est le contraire du feu, c'est de l'eau. Elle est pure, elle ne bouge pas, elle est pure, elle est transparente. Et en même temps, elle est retenue. Donc le frère, en fait, est dans une retenue, le frère citadin. Pourquoi il est dans une retenue? Parce que précisément, il sait, dans la confrontation, il a appris à tenir cette monture, qui a tendance à se cabrer, qu'est le soin impérieux. Ostad Elahi est lui-même l'héritier d'une très riche tradition morale et spirituelle. Celle, justement, de la spiritualité traditionnelle. Mais en même temps, il a développé une pensée profondément originale parce qu'il a très tôt pris conscience du fait qu'il faut absolument prendre en compte la dualité de la nature humaine. Et cette dualité, justement, c'est que la nature humaine est à la fois charnelle et spirituelle. Et il pense que c'est une grave erreur d'évacuer l'une au profit de l'autre. Il est convaincu que l'être humain doit être respecté dans sa double nature et surtout qu'il doit se respecter dans sa double nature. Qu'il y ait une tension entre ces deux tendances ne signifie pas finalement qu'il y ait contradiction. En effet, le pôle spirituel vient sur Terre pour s'enrichir de l'expérience de la matière. Donc le pôle terrestre est là pour servir le pôle céleste et non pas du tout pour se mettre en contradiction avec celui-ci. D'où la recommandation de s'engager dans la société, d'y être actif, sans pour autant se laisser influencer par l'environnement, ni être absorbé par le monde. Il faut utiliser le monde sans y être absorbé. Donc l'âme descendue dans le corps doit tirer profit de ce passage pour progresser dans son perfectionnement éthique et dans la connaissance de soi. Et ça, c'est impossible si on se retire du monde, parce que se retirer du monde fait l'effet en fait d'un sédatif qui endort les pulsions, comme on l'a vu, sans les maîtriser véritablement. Au fond, on pourrait dire que pour Ostad Elahi, sans le soin impérieux, il ne peut pas y avoir de dynamique de perfectionnement. La vraie question est de connaître les raisons de notre présence sur Terre afin de trouver les moyens d'accomplir ce pourquoi nous sommes venus. Finalement, c'est la question essentielle qu'il faut se poser. Pour Ostad Elahi, le but de la création est la perfection. Et la perfection signifie que l'âme a acquis une connaissance des vérités divines suffisante pour rejoindre la source et y vivre un bonheur parfait, dans une liberté totale. Le principal devoir de l'homme sur cette terre est donc d'éduquer, d'immuniser sa pensée et parvenir, par l'acquisition des vertus divines, à la perfection. Et ces vertus divines, elles ne peuvent pas s'acquérir dans la neige de la montagne. Donc la perfection est à la fois connaissance de soi et du monde et acquisition de vertus. C'est pourquoi elle est à la fois méditation et lutte contre les pulsions du soi impérieux.